Courrier cadre, l'entretien.
Depuis fin octobre et après une pause de 4 ans hors antenne, le journaliste Frédéric Lopez anime une nouvelle émission sur France 2 intitulée « Un dimanche à la campagne ». Il embarque ses invités comme le public dans une expérience transposable au monde du travail. Stéphanie Condis l'a rencontré dans ses bureaux à Paris, un entretien réalisé pour Courrier cadre.
Bonjour Frédéric Lopez, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux. Donc, depuis le 23 octobre, votre émission est diffusée sur France 2, Un dimanche à la campagne. Et je me demandais en fait ce qu'évoque pour vous la campagne. Est-ce que vous êtes plutôt du genre télétravail ou au contraire lâcher prise des connexions, voire les deux, puisqu'on voit que depuis les confinements, beaucoup de gens ont quitté les grandes villes pour s'installer à la campagne et travailler à distance.
C'est vrai que je me souviens du confinement, mais j'étais dans les Cévennes. Et alors les Cévennes, c'est un parc national, donc c'est extrêmement pur, c'est très calme, etc. Mais sauf qu'on continuait de travailler, et donc j'ai quand même continué de produire plusieurs prime time de Rendez-vous en terre inconnue notamment. Et on était en montage, on s'envoyait des trucs, et à un moment donné, je me suis vu stressé, comme à Paris. En fait, le stress se transporte en fait partout, si on en met des écrans évidemment. Voilà, mais c'était exceptionnel parce qu'effectivement, c'était le confinement. Après, moi, la campagne, c'est un endroit où j'aime ne pas travailler, où j'aime couper les écrans. D'ailleurs, quand on demandait autour de vous aux gens quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils ont éteint leur écran, vous allez être étonné des réponses. En général, c'est jamais. Et donc voilà, donc moi, la campagne, c'est plutôt un endroit pour se ressourcer.
Alors justement, dans l'émission, vous demandez aux invités de mettre leurs appareils, leurs téléphones dans une boîte pour se déconnecter complètement. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que vous arrivez à créer une harmonie entre les générations, entre les différentes cultures et les différents profils. Et donc je me demandais, finalement, ça c'est une des clés de la réussite du management en entreprise, arriver à créer cette émulation, mais aussi cette presque harmonie. Comment on arrive à faire ça?
Je ne sais pas du tout comment on arrive à faire ça, mais moi j'ai beaucoup de mal avec le jeunisme en général. Vous savez, chaque génération a l'impression d'avoir inventé le fil à couper le beurre. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et des mots, le mot moderne, c'est un mot que je comprends même pas en fait, parce que ou tout ce qui est à la mode, évidemment la mode passe, etc. Donc je suis pour tout ce qui est intemporel. Et moi j'ai la sensation, et c'est pas un cliché, qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Bon voilà, dans l'émission, je sais pas comment dans une entreprise ça peut se produire, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde est friand de ça. Tout le monde est, il y a une sorte de demande de ça en fait. Voilà, ceux qui ont de l'expérience évidemment ont des choses à apprendre aux autres, et puis souvent ceux qui ont de l'expérience sont complètement largués avec les technologies et puis éventuellement les nouvelles techniques de management, etc. Et moi je suis plus à l'aise quand il y a plusieurs générations. J'ai beaucoup de mal à, et j'aime pas quand il y a de la condescendance de l'un ou de l'autre d'ailleurs, hein. Les vieux qui ont l'impression que c'est des petits jeunes ou les jeunes qui ont l'impression que c'est des vieux un peu dépassés, donc voilà. Et ça se retrouve aussi quand je fais mes émissions. Parfois dans les émissions de télévision, on invite les invités qui sont à la mode, et puis d'un coup il y en a d'autres qui deviennent d'un seul coup ringards. Alors moi, ringard, ça n'existe pas. Pour moi, c'est juste un être humain qui a vécu plein d'expériences et qui a connu des hauts et des bas, parce qu'il n'y a pas un être humain qui a connu que des échecs. Ça n'existe pas. Et donc voilà, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que un, intergénérationnel bien sûr, et deux, qu'il soit à la mode en ce moment ou qu'il n'y soit pas. Et voilà, bon, c'est des histoires de tolérance, mais c'est aussi une histoire de richesse. En fait, évidemment, tout le monde a quelque chose à s'apporter.
Et justement, donc l'idée qu'on va parler avant tout des qualités humaines, un peu comme aujourd'hui en entreprise, on va recruter à partir des soft skills, des qualités comportementales, plus que sur les compétences techniques, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est essentiel pour bien fonctionner.
Oui, à la bonne heure, non? J'ai envie de dire. À la bonne heure, moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas vraiment dans le monde de l'entreprise, c'est un monde à part dans lequel je suis. Et moi, j'ai une boîte de prod, mais c'est une micro-boîte, tout le monde est extrêmement responsable. Il n'y a pas de problème de quête de sens, parce qu'en fait, on sait ce qu'on est en train de faire et pourquoi. Parce que moi, les programmes que je fais, c'est pour donner de l'espoir. Donc en fait, tout le monde est habité par ça. Mais effectivement, la personnalité des uns et des autres, aujourd'hui, on commence à connaître les quotients émotionnels. On se rend compte que il y a un spectre d'autisme qui est assez large, mais il y a des gens qui ont une intelligence très très particulière, qui voient des choses que les autres ne voient pas. Donc l'idée que l'entreprise s'intéresse à la personnalité des gens, c'est une bonne nouvelle pour moi, évidemment. C'est, on veut dire, encore une fois, à la bonne heure.
Et donc, c'est finalement mettre l'humain au centre. On a l'impression un peu que lors de l'émission, vous êtes comme un manager un peu bienveillant qui va à la fois un peu guider par moment, mais laisser faire, être beaucoup à l'écoute. Ça, c'est même le centre de votre action, finalement. Donc, c'est comment vous vous définiriez comme manager, justement?
Ouais. Alors, c'est compliqué. Dans l'émission, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Donc, il faut déjà que toutes les conditions soient réunies. Il y a beaucoup de grands méditants, des sages aussi qui disent ça. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Et donc, c'est important, l'endroit où on est, à quoi ressemble l'endroit. Si on n'est pas bien dans l'endroit où on est, en général, on est tous des petites charges émotionnelles qui se trimballent ici ou là. C'est-à-dire qu'on est tous... hypersensible en vérité, et donc pour que toutes les conditions soient réunies, évidemment il y a l'endroit, j'ai envie de dire le son, c'est parce qu'on est dérangé par le son, des fois vous êtes dans des magasins, la musique est tellement forte que vous n'arrivez pas à vous concentrer, etc. Et puis comment les gens se regardent et s'écoutent, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans un groupe, une seule personne peut mettre une mauvaise ambiance. Un lever de sourcil peut être interprété comme du mépris ou de l'arrogance, etc. Et donc, c'est vrai que, bon, dans mes émissions, j'attends des invités, mais c'est pour ça que je les invite, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient sans jugement, en fait. Et donc voilà, donc je suis attentif à ça, que ça ricane pas, peut-être. Voilà, parce qu'on est dans une époque qui ricane, moi j'aime pas ça. Et donc, du coup. Mais en général, ça se passe bien. Parce que je crois aux émotions contagieuses, les neurones miroirs. Et en fait, le fait que moi je suis. Comment dire? Pour que le téléspectateur, par exemple, se sente bien, il faut que les stars se sentent bien. Parce que le téléspectateur s'identifie aux invités. Et pour que les invités se sentent bien, il faut que moi je me sente bien. Parce qu'en fait, on est vraiment connectés. Et pour que moi je me sente bien, il faut que je me sente bien avec les équipes qui sont derrière les caméras. Et donc voilà, je suis très conscient de ça. On me dit que je suis un petit dictateur de la bienveillance. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir quelqu'un de l'équipe d'un seul coup qui a les sourcils froncés. Et je vous jure que c'est contagieux. Certains seuls coups, moi ils le savent, en terre inconnue, souvent les ingénieurs du son, des fois ils ne s'en rendent pas compte, puis ils sont comme ça, et puis d'un seul coup il y a un bruit parasite, une cascade à côté, etc. Et dès qu'ils sont comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais qu'il y a un problème, parce qu'à la séquence on ne la prendra pas au montage. Et donc moi je suis hyper sensible aux expressions faciales, hyper sensible à la manière dont se sentent les gens. Et c'est une sorte d'hyper-empathie un peu dérangeante parfois. Hein. Quand je pars au ski avec 12 personnes, puis il y a quelqu'un qui a oublié ses gants, ça va me gâcher le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis attentif à ça. Et est-ce qu'il n'y a pas de rivalité entre les gens? Est-ce que tout le monde se sent bien? Et ça va plus loin que ça, parce que ce que je fais dans mes émissions où je présente des gens qui ne se connaissent pas, ça se passe dans ma vie. C'est-à-dire que moi, j'adore un anniversaire, par exemple. Il y a des gens qui sont dans ma vie depuis 30 ans, d'autres depuis 15 ans. Puis ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont là depuis 3 semaines, parce que j'ai eu un coup de cœur pour certaines personnes. Et en général, ce que je leur dis, c'est présentez-moi quelqu'un à la fin de la soirée que vous ne connaissiez pas en arrivant. Un peu pour les inviter à aller voir d'autres gens que des gens qu'ils connaissent déjà. Donc ça, c'est mon kiff à moi, c'est mon plaisir à moi. Et donc, je ne peux pas parler de management, on va dire, en tout cas, c'est une attention particulière à comment se sentent les gens. Et quand ils ne se sentent pas bien, intéressant de voir aussi pourquoi ils ne se sentent pas bien. Mais je sais combien une seule personne peut gâcher l'ambiance.
Et à la fin de l'émission, ils reviennent un petit peu, chaque invité, sur la manière dont ils se percevaient au tout début. Et donc interviennent justement les biais qu'on peut avoir, et là aussi les biais qu'on a vis-à-vis de l'autre dans la vie et en entreprise et au moment du recrutement. Et donc toute votre démarche à vous, c'est justement à la fois d'en prendre conscience et d'essayer de les surpasser, d'aller plus loin que ça.
Oui, alors c'est rigolo parce que dans un dimanche à la campagne, les trois invités qui se retrouvent à la campagne avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ont toujours des appréhensions. Et ils se demandent avec qui ils vont être. Et c'est vrai que dès la première, Big Flo et Oli, donc sont des jeunes rappeurs, etc. Ils se retrouvent avec Charlotte de Turckheim, que le public de France adore, mais qu'eux ne connaissent pas. Et Flo le dit, en fait, il a l'honnêteté de le dire. Franchement, quand je suis avec des gens qui sont pas de ma génération, qui ont pas mes références, je peux pas faire les bonnes blagues, etc. J'étais persuadé que voilà, je fuyais sa situation. Et il est surpris lui-même de bien s'entendre. Et voilà, et Charlotte, je la connais bien, on est parti au-delà du cercle polaire ensemble, en terre inconnue. Elle, je savais qu'elle les adorait, mais c'est vrai que moi, j'aime bien passer au-delà des préjugés. Vous savez que cette émission, c'est un peu la petite sœur de La Parenthèse Inattendue que je faisais il y a 10 ans, et je voyais ça auprès du public, c'est-à-dire je voyais les commentaires des gens qui disaient « Ah, je regardais l'émission parce que j'adorais machin et je détestais Bidule, et maintenant je l'adore ». Voilà, ça aussi, ça fait partie de mes plaisirs à moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qu'on croit qu'on va pas aimer, et finalement, en l'approchant un peu, et en s'intéressant à son histoire, tout simplement, hein, à son histoire. C'est le père de Michelle Obama qui disait « Derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire ». Donc en fait, une fois qu'on sait ça, et il y a une autre phrase ici que je ne sais pas à qui l'attribuer, mais qui disait « N'oublie jamais que chaque personne que tu croises a déjà traversé l'enfer plusieurs fois ». Et donc c'est notre humanité commune, et donc voilà. Donc moi j'avoue que je suis quelqu'un qui adore lutter contre les préjugés.
Et du coup, ce côté inclusif, ça permet d'accepter de vivre ensemble, de même au-delà du fait de s'aimer ou pas, en fait, de comprendre l'autre quelque part et de l'accepter.
Oui, moi, je me suis beaucoup intéressé à la communication non violente. Et dans la communication non violente, on dit qu'on va monter sur la colline de l'autre. Et donc, en fait, chacun dans sa réalité. Mon fils m'avait offert un livre il y a quelques années, il avait 15 ans, je crois, qui s'appelait « La réalité des réalités ». Alors, vous allez le retrouver, mais parce que j'ai oublié le nom de l'auteur. Et c'est incroyable. Ça explique, dans le bouquin, il parle de tous les conflits qu'il peut y avoir, même sur le plan géopolitique, ou comment, en fait, on a chacun une réaction. On est chacun dans notre réalité, à nous, dans notre univers. Et en fait, c'est assez fascinant de rentrer de monter sur la colline de l'autre, en fait. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle qu'il y ait des conflits dans la boîte, des gens qui n'arrivent plus à se parler, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai fait venir comme ça des médiateurs, et c'est des moments que j'adore. C'est des moments que j'adore. Parce que c'est fascinant de voir comment chacun est recroquevillé, et dès qu'il le demande « mais quel est ton ressenti ?», on voit les gens qui touchent leur estomac sans faire exprès, qui disent « ben en fait, voilà, j'ai compris ça, j'ai entendu ça, je me suis senti… » Parce qu'à l'arrivée, on va pas se mentir, tous les êtres humains sur cette planète ont un point commun, ils veulent être aimés. C'est même une des raisons pour lesquelles on se lève le matin. On veut être aimé. Alors, je parle même pas de… Évidemment, il y a ceux qui sont en train de donner des concerts et qui ont envie qu'on les applaudisse, mais pas que chaque être humain. Et c'est un peu notre point commun. Et finalement, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. Vous savez, quand vous arrivez dans un groupe que vous ne connaissez pas et que vous sortez une blague, je peux vous dire que vous vous rappellerez de celui qui a parié à votre blague. Donc c'est un truc qui m'a toujours fasciné, parce que d'un seul coup, c'est « est-ce que cette personne m'aime bien ?» quoi. Donc moi je suis devenu un peu un entomologiste des émotions, parce que j'en ai fait un métier, mais dans la vie ça me passionne. Et il se trouve que dans les émissions, c'est ça que je mets en avant. Quand je fais rendez-vous en terre inconnue, c'est des gens qui ne se connaissent pas. C'est une personnalité qui est au top de sa carrière, qui est adulée, qui est admirée, qui est chouchoutée. Parfois infantilisé, et puis qui vient sans maquilleuse, sans attaché de presse, sans avocat, pendant 3 semaines, à la rencontre de gens qui vivent dans le désert ou dans la jungle. Et c'est des mondes différents. Et là aussi, c'est ça que j'aime le plus, parce qu'au départ, on sont tellement différents. Et puis à l'arrivée, ils disent tous la même chose, on est pareil. Bah oui, parce qu'il y a une forme d'humanité commune, une forme d'universalité. Donc moi, c'est vrai que c'est ça que je vois. Alors après, dans le monde de l'entreprise, là où ça se complique, c'est quand il y a des hiérarchies. Et là, dès qu'il y a la hiérarchie, il y a des gens, effectivement, dans toutes les strates de la société, qui aiment bien le pouvoir. Vous savez, j'ai un voisin qui a créé Blablacar et qui m'a dit un jour, en fait, le monde est divisé en deux mots, si j'ai plein de théories. Il dit, il y a ceux qui sont à la recherche de la liberté et ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Donc, bon, on les repère facilement.
Et vous avez aussi… un autre métier, enfin je ne sais pas si vous en faites vraiment une profession, mais en tout cas c'est une partie de votre activité, qui est justement d'intervenir autour de la pleine conscience, de la méditation. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment c'est venu et comment vous avez développé ces connaissances
Alors en fait, moi, quand Rendez-vous en Terre Inconnue est devenu un phénomène qui nous a dépassé, qui battait des records d'audience, en fait je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais j'avais une… Il y avait la pression naturelle de l'audience, la peur de décevoir. C'est-à-dire, en fait, ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer à celle d'après? Mon titre est remis en jeu comme ça à chaque diffusion. Et moi, je me rajoutais beaucoup de pression. Et donc, un jour, j'ai une copine qui m'a inscrit dans un cours. Elle me dit, ouais, c'est anti-stress. Elle m'aurait dit méditation, j'y allais pas. Parce que j'aime beaucoup dire que moi, je faisais partie des gens qui confondaient méditation et lévitation. Et donc, en fait, ça ne me parlait pas. Et l'image que j'avais des méditants, c'était des gens qui avaient peur du monde réel et qui préféraient passer leur temps à méditer devant un poster de Bouddha qui se décolle. Voilà, ça, c'était l'image que j'avais. Et en fait, c'est le contraire. En fait, c'est le contraire, c'est que quand on est dans l'action permanente, moi, j'étais un peu hyperactif, eh ben, du coup, on peut trimballer nos émotions, on peut vivre un conflit, et puis dans la scène d'après avec d'autres gens, on va se retrouver avec cette colère, alors que ça n'a pas de rapport avec les gens qu'on vient de voir. Et donc voilà, donc j'ai découvert la méditation de pleine conscience il y a 12 ans. Et là, j'ai appris à être dans l'instant présent. Tout simplement, j'ai découvert qu'on avait la tyrannie du mental, c'est-à-dire que notre mental nous emmène dans le passé ou dans le futur, et pas vraiment dans le présent. Et donc là, ça m'a aidé à être beaucoup moins anxieux. Voilà, et donc effectivement, après, j'ai été à la fac de médecine de Strasbourg. Pendant les périodes où j'ai arrêté la télévision, j'avais du temps. Et là, il y a un DU, un diplôme universitaire, qui s'appelle médecine, méditation, neurosciences, où il y a beaucoup de scientifiques qui viennent expliquer ce qui se passe dans nos cerveaux quand on médite. Ben voilà, ça m'a plu parce que je suis très rationnel en vérité. Je suis pas très ésotérique et du coup ça me plaisait de voir que l'idée même de se poser un instant. Et attention, le premier quiproquo, c'est que beaucoup de gens imaginent que méditer c'est arrêter de penser, faire le vide. Ça n'existe pas. On a 45 pensées à la minute et donc c'est impossible de pas penser. Et au contraire, il faut juste se poser son attention. Sur une sensation du corps, sur la respiration, souvent, etc. Et naturellement, les pensées vagabondent, et naturellement, il faut revenir, c'est normal. Et après, c'est comme un muscle, en fait, plus on le fait, plus c'est facile. Et ça m'a rendu moins anxieux. Mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais encore très perfectionniste. Et donc, effectivement, c'est jamais assez, en fait. Et le perfectionnisme, c'est une maladie très, très... qui est à l'origine de beaucoup de burn-out, en fait. Et donc, là aussi, c'est l'envie d'être aimé, évidemment. Et donc, j'ai découvert, grâce à Christophe André, dont on dit qu'il est le psy préféré des Français, dans une conférence, l'autocompassion en pleine conscience. C'est l'idée de se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Et en fait, les études ont montré que 80% d'entre nous, en fait, on a une petite voix intérieure qui nous maltraite, qui est beaucoup plus dure. On est beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres, mais c'est pire que ça. On est plus dur avec des gens qu'on n'apprécie pas. Pardon, on est plus doux avec des gens qu'on n'apprécie pas qu'avec nous-mêmes. Donc ça laisse, ça fait réfléchir. Et donc voilà, donc c'est comme ça. Et il y a un programme qui repose sur 4000 études scientifiques qui s'appelle MSC en anglais, Mindful Self-Compassion, et qui a été conçu pour apprendre à arrêter de se maltraiter, en fait, tout simplement. Parce qu'on a beau le savoir, là, on a eu cette conversation, on peut dire « Ah oui, je vais arrêter ». En fait, on a une immunité au changement et malheureusement, on ne peut pas arrêter comme ça. Et donc, c'est un programme qui dure 8 semaines, c'est un soir par semaine. Et en fait, peut-être on se familiarise avec cette voix intérieure qui nous maltraite et puis on voit comment ça se passe. Vous savez, on a tous été blessés par des mots. Des gens, des fois, qui nous disent des phrases qui nous blessent. Donc, les mots des autres nous blessent, mais nos mots à nous nous blessent. Et comme nous, on se parle mal, on passe notre temps à se stresser, à se blesser. Donc l'autocompassion, c'est pour apprendre à... Moi, je suis devenu, j'ai de la tendresse pour mes imperfections aujourd'hui, alors qu'avant, je cherchais, non pas être parfait, parce que c'est impossible, mais je veux toujours que ce soit mieux. Aujourd'hui, je sais que je fais de mon mieux. Voilà, je fais de mon mieux, donc je suis plus détendu. Et c'est vrai que quand on arrête de se maltraiter, on arrête de maltraiter les autres. On est moins dur. Quand on est exigeant avec soi, on est exigeant avec les autres, souvent. Donc j'invite ceux qui se maltraitent à découvrir ça. Donc, il faut chercher, c'est Mindful Self-Compassion, MSC, sur Internet.
Et vous-même, donc, vous êtes instructeur dans cette matière, entre guillemets ?
Et moi, je suis instructeur à Paris, dans un centre qui s'appelle le Centre QI, qui est un centre qui fait de la méditation, du yoga, etc. Et c'est là où moi, j'avais découvert la méditation, justement, à l'époque. Et donc, du coup, effectivement, je donne des cours régulièrement. Pour les gens qui ont envie d'arrêter de se maltraiter. Et c'est très chouette parce que moi, je m'étais souvent dit, au fond, j'ai la chance de pouvoir parler à des millions de gens parfois, et là, je vais parler à une quinzaine de personnes. Mais alors, qu'est-ce que c'est hyper gratifiant de voir des gens se transformer, des gens arriver en disant, c'est terrible, je maltraite. Il y a parfois des larmes parce qu'on dit que l'amour révèle ce qui ne lui ressemble pas. Donc en fait, dès qu'on commence à être doux avec soi, on réalise qu'on était, les années passées à être très très dur avec soi. Mais franchement, c'est subtil, mais c'est spectaculaire à la fin.
Et vous avez déjà fait ça en entreprise ou vous y pensez ?
Et bien sûr que c'est passé en entreprise. J'étais en contact avec le CJD.
Le centre des jeunes dirigeants.
Ouais, le centre des jeunes dirigeants. Après, il faut que je trouve le temps. Mais oui, évidemment que ce serait cool. En vérité, je pense à tous les milieux. C'est 80% des gens. D'ailleurs, les 20% qui ne se maltraitent pas, je ne les ai pas encore rencontrés. Il paraît qu'ils existent, mais je ne les connais pas.
Et justement, vous parlez de notion de temps. Comment on arrive à gérer ce temps? Parce que vous avez quand même une émission hebdomadaire. J'ai lu, je crois, dans une interview qu'au départ, quand vous avez accepté, vous disiez « mais je ferai une émission sur deux » parce que voilà. Et finalement, il fallait les faire à chaque semaine. Comment vous arrivez à gérer votre temps en étant indulgent avec vous-même?
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, mais il y a eu une époque où j'étais... C'est des concours de circonstances, mais je faisais rendez-vous inter inconnu. Et puis, il y avait France Inter qui m'avait proposé une émission quotidienne. Là aussi, au début, j'avais dit non, puis j'avais rappelé deux jours après en disant oui. J'avais adoré. Et puis France 2 qui m'a proposé la parenthèse inattendue. Et là, c'était le climax de ma vie. Et j'ai frôlé j'avais fait un premier burn-out, là, j'ai frôlé le deuxième burn-out. Et je me suis rendu compte et j'ai dû arrêter une des activités. Et c'était France Inter en quotidienne. Et du coup, aujourd'hui, je fais très attention. Donc, il y a cette hebdomadaire qui est effectivement beaucoup de préparation, beaucoup de travail, il y a du montage, etc. Et j'essaie de me dire que je vais résister aux autres propositions. Voilà. Donc, je serai très attentif à ce que je ressens, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc, savoir dire non, c'est important.
Oui. En fait, c'est ça. La méditation de pleine conscience ou l'autocompassion, c'est la pleine conscience, c'est comment je me sens. Apprendre à écouter comment je me sens. Le simple fait de se poser la question, c'est ça. On dit waouh, là, je me sens stressé, je me sens triste, je me sens en colère. Le simple fait d'observer son émotion, ça s'appelle la diffusion. D'accord. Le simple fait d'observer l'émotion, vous désactivez l'émotion. Et l'autocompassion, donc la pleine conscience, c'est comment je me sens. Et l'autocompassion, c'est de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin là tout de suite? Là tout de suite, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Là tout de suite, j'ai besoin d'aller marcher, prendre l'air. Là tout de suite, j'ai besoin d'appeler ma famille. Là tout de suite, où j'ai besoin d'aller à la campagne. J'ai besoin de trouver un projet qui me motive. C'est pour avoir une vie qui nous ressemble et pas vivre en automatique.
Et est-ce que le fait justement d'avoir fait une parenthèse alors de 4 ans, mais en fait vous étiez quand même producteur, donc vous n'étiez pas inactif professionnellement parlant en tout cas, ça vous a aidé à prendre du recul, mais après, comment vous avez géré le retour dans la lumière en quelque sorte?
Oui, ça n'a pas été naturel en fait, j'ai d'abord arrêté rendez-vous en terrain inconnu. J'ai jamais annoncé que je faisais des adieux parce qu'on m'a dit fais attention, tu risques si tu reviens après tu vas regretter. Donc j'ai dit que je faisais une pause, mais... Honnêtement, j'ai pensé que c'était des adieux. Je l'ai pensé profondément. Je me suis dit, super, ça me plaît cette vie où j'ai fait. C'est une sorte de sport de haut niveau, la télévision. Parce que tous les matins à 9h10, on vous dit si ça a fonctionné, si ça a marché, l'audimat, la médiamétrie. Et donc, c'est immédiat. Et c'est parfois cruel. Il peut y avoir une émission géniale qui passe, et puis d'un seul coup, la concurrence est terrible, parce qu'il y a Harry Potter sur le chaîne, vous voyez ce que je veux dire, ou un truc que le public adore, et d'un seul coup, votre émission passe à la trappe. Donc c'est très particulier, ça demande un état d'esprit particulier, et moi, donc, j'avais arrêté l'antenne, et je me suis rendu compte que le fait de plus être exposé, on est beaucoup plus détendu. Enfin, c'est simple. Pensez au stress que chacun d'entre nous on peut avoir de parler en public. Alors ceux dont c'est le métier, on peut penser qu'ils sont habitués, mais c'est pas si naturel que ça. Surtout dans une époque où aujourd'hui tout ce que vous dites, c'est partout, ça laisse des traces. Et vous voyez ce que je veux dire. Dès que vous êtes devant un micro ou une caméra, d'un seul coup, vous pouvez vous retrouver avec une phrase qui vous a échappé, ou un quiproquo, un truc comme ça, qui va faire le buzz. Il va être l'objet de tous les haters qui existent sur Internet. Donc en fait, le fait de ne pas être exposé, ça détend drôlement. J'ai beaucoup aimé. Et quand la chaîne est venue me chercher pour le dimanche, au début j'ai eu peur, finalement j'ai vu mon équipe s'emballer, puis j'ai pensé aussi à la manière dont ça a inspiré le public. C'est-à-dire que la parenthèse inattendue, puisque c'est un peu l'ancêtre d'un dimanche à la campagne, avait inspiré beaucoup, beaucoup de monde. Et j'aime beaucoup citer Christian Delaché qui a créé la première communauté d'entraide en Europe. C'est 1 million de personnes qui s'entraident sur Facebook. Ça s'appelle Wanted, donc c'est le monde dans lequel moi je rêve de vivre. Et il m'a raconté, moi j'étais ému quand il m'a raconté son histoire. Et il m'a raconté qu'en fait j'étais pour quelque chose. J'ai eu comment ça ? En fait, parce qu'il avait regardé en boucle la parenthèse au moment où il avait franchi le pas. Il avait quitté son métier d'avocat fiscaliste pour être dans cette aventure associative en fait. Et il a créé depuis d'ailleurs un restaurant à Paris. Dès qu'on va se quitter, je vais déjeuner d'ailleurs. Et c'est un restaurant dans le 10e arrondissement qui s'appelle Wanted Café et qui est un restaurant solidaire. Voilà, où les gens qui n'ont pas forcément de moyens peuvent déjeuner et ceux qui ont des moyens le font et participent aussi d'une certaine manière. Donc, ça c'est un truc de dingue quand vous apprenez qu'il y a des gens qui écoutent les histoires de vos invités, qui sont des histoires inspirantes, des histoires où il y a des échecs, des épreuves. C'est pas un long fleuve tranquille en fait. Et ça motive, ça donne du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde est dans une crise de sens. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît de savoir que les gens s'interrogent enfin sur la question du sens. Et c'est assez facile parce que je crois qu'on fait tous notre part. Tout le monde, chacun dans notre domaine. Mais c'est vrai que les patrons devront s'interroger maintenant quand ils s'approchent des gens pour se dire quel est le sens de ce métier, quel est le sens de ce job, quel est le sens de ce poste. Et chaque personne viendra se lever le matin en disant OK, à quoi je sers ? Et je trouve que c'est des questions super en fait. C'est forcément vertueux, forcément vertueux.
Vous aimez avoir des idées de nouveaux concepts, l'innovation elle est assez présente, l'originalité. Comment est-ce que vous arrivez à créer les bonnes conditions pour ça ?
Oui, c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit « c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait ». Et donc moi, je ne savais pas que dans mon métier, c'était très très difficile de créer. Parce que les patrons de chaîne, et ça se comprend là aussi si on se met dans leur réalité, ils jouent leur peau tous les jours en fait. Et donc ils préfèrent un concept qui a marché dans 40 pays. Et moi j'arrivais avec des concepts qui étaient dans ma tête et qui n'avaient pas fait leur preuve. Donc c'était très compliqué, ça a été entre 4 et 7 ans pour certains. Et donc du coup, les conditions pour créer, c'est très compliqué parce que moi j'ai créé dans des conditions différentes à chaque fois. Mais je pense à une émission qui s'appelait la parenthèse inattendue, que j'avais créée presque dans l'urgence, parce que la chaîne voulait que je fasse un concept québécois auquel je ne croyais pas beaucoup. Et je me suis senti obligé je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et je me souviens que j'avais fait une méditation et je m'étais mis comme ça dans mon jardin. Ça paraît morbide quand je le dis, mais ce n'est pas du tout. Mais je me dis, imaginons qu'il te reste un temps limité sur cette terre et que tu as envie de travailler, voilà. Et qu'est-ce que tu ferais ? Où tu te vois, en fait ? Et donc, je ferme les yeux et j'imagine cette situation. Et je me suis vu avec tous ces invités que j'avais emmenés en terre inconnue. Souvent, ils m'invitaient chez eux après. Ils me voulaient me faire découvrir leur région, etc. Et je les voyais en cuisine me raconter des trucs qu'ils n'avaient jamais raconté en plateau. Et c'est de là que m'est venue l'idée de l'émission, la parenthèse inattendue, où je me suis dit, mais en fait, je vais les inviter à la campagne, puisqu'ils me reçoivent à la campagne et qu'ils racontent des choses. Et c'est vrai que la compagnie des arbres, la présence de l'eau qu'on a choisi d'avoir, etc., on ne raconte pas les mêmes choses qu'en plateau, où on est apprêté, où on arrive, et il y a des applaudissements, des regards, où il faut assurer. Là, ils sont détendus. Donc c'était une méditation. Les autres fois, c'est très compliqué, parce que, en fait, souvent, les idées, ça vient, on ne sait pas à quel moment. La parenthèse inconnue, ça m'est venu quand j'avais 23 ans, j'étais à la télé de Lyon et je l'avais écrit, mais je ne sais pas à quel moment les idées vous viennent. Ce qui est important, c'est de ne pas s'inhiber pour la création, c'est sortir, c'est out of the box, mais c'est sortir du cadre et jamais se dire c'est pas possible. Moi, il y a des collaborateurs par exemple qui sont très pratiques parce qu'ils sont producteurs. Et quand on fait un brainstorming, d'un seul coup, quand on dit ah ouais, on pourrait faire ça, leur cerveau va tout de suite penser à comment on va faire. Alors évidemment, ils vont dire non, c'est impossible, c'est compliqué. Et alors je leur dis attention. Donc ils savent que si c'est ça, c'est pas grave, on fera le brainstorming sans eux. Et donc moi j'aime bien cette idée de se dire allez, on fantasme, on rêve, on délire. Et là-dedans, il y a peut-être un truc qui va nous dire ah, mais oui, bien sûr. Et donc la créativité, ouais, c'est ne pas s'inhiber, ne pas se demander si ça a déjà été fait. Et puis en disant, c'est se reconnecter à l'enfant qu'on a été en fait. C'est le jeu Et on n'est pas créatif quand on a peur, par exemple. On n'est pas créatif quand on est inquiet. On n'est pas créatif... On peut être créatif quand on est triste, c'est vrai. Il y a des chanteurs qui écrivent des chansons incroyables quand ils sont tristes. Donc finalement, ça dépend de ce qu'on veut inventer. Mais en tout cas, ouais, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de dire des bêtises, ne pas avoir peur.
Et de l'échec, parce que dans ce que vous décrivez, il y a de la spontanéité, mais il y a de la persévérance aussi. C'est-à-dire, vous dites, il y a 23 ans, j'avais eu cette idée. Ça peut mettre 4 à 7 ans pour que l'idée soit acceptée. Donc en fait, on rebondit, on persévère, on va au-delà de l'échec, quoi.
Alors, ne pas s'arrêter au premier obstacle, parce qu'effectivement, la personne qui nous dit non, c'est juste un point de vue. Elle a son histoire, et puis elle pense que non, ce jour-là. Et même quand il y en a plusieurs, moi, pendant 7 ans, personne ne voulait de la parenthèse, c'était à l'époque panique dans l'oreillette, où donc je parlais à une personnalité, et du coup, il y avait des amis à eux qui me donnaient une autre version de leur histoire. Les patrons de chaîne me disaient non... Tu vois, les amis vont dire quoi? Ils vont dire oui, il est très généreux. Je dis, mais non, mais mes amis, ce sont mes amis depuis l'adolescence parce qu'ils me vannent, justement. Non, je crois pas. Et honnêtement, à l'époque, j'étais un peu. Il y avait une forme de folie parce que mes amis me disaient, mais arrête. Je veux dire, personne n'en veut, arrête, passe à autre chose. Et moi, j'étais là, je leur disais comme ça, je vous jure, ça va faire le tour du monde. Et c'est vrai que l'idée, elle a été achetée ensuite dans 12 pays. Et donc, du coup, alors elle n'a pas existé dans 12 pays, parce que moi à l'époque, je savais pas, il fallait envoyer les audiences, etc., je ne savais pas faire, mais elle a existé en Espagne et au Liban. Et mon psy m'avait dit il y a quelques années que j'avais déplacé mon ego de ma personne à mes idées. Donc, j'étais très heureux de voir mes idées faire le tour du monde. La parenthèse inattendue, elle existe en ce moment au Québec, ça s'appelle La Vraie Nature. Et ça, c'est incroyable. Et donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, je me battais, mais. Aujourd'hui, j'ai envie de me dire, je me sens plus la force de me battre, en fait. Et j'ai envie de me dire que c'est peut-être le contraire que j'ai envie de faire. Ça existe aussi. Et il y a des gens pour qui c'est le contraire. C'est-à-dire que ça se fait avec vous, si ça se fait pas avec vous, ça se fera avec quelqu'un d'autre. Si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera à un autre moment. Et d'un coup, vouloir que ça soit fluide. Et moi, j'étais plutôt j'étais en force. Et j'étais dans le combat, je voulais convaincre. C'est dangereux pour la santé. En fait. Et donc du coup, aujourd'hui, je suis plus détendu. Alors c'est plus facile d'être détendu quand on a un toit sur la tête. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas de toit sur la tête. Donc quand on a un toit sur la tête, on peut se dire, je peux attendre un petit peu. Mais souvent, se dire que... Alors à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes aussi. C'était compliqué de se dire, où est-ce que je vais? Mais moi, je crois plus aujourd'hui à cette idée que c'est comme en amour, en amitié, ça fonctionne quand il y a un désir réciproque, quand il y a une envie réciproque. Et donc finalement dans le travail c'est un peu la même chose. Alors que moi j'écoutais pas assez les besoins des chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, alors elles évidemment elles avaient des besoins, elles vont pas, comment dire, c'est compliqué parce qu'elles veulent souvent ce que l'autre chaîne diffuse. Hein, donc c'est pas simple d'arriver avec un truc nouveau, c'est pas simple. C'est parfois même très douloureux d'avoir raison un peu avant les autres, c'est-à-dire d'avoir envie d'un truc et personne n'en veut pendant 7 ans. Moi, j'ai vécu plusieurs années de chômage où j'avais aucun rendez-vous, je marchais dans la rue. J'apprendrai plus tard que la marche est le meilleur des antidépresseurs, donc je marchais. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de faire comme certaines personnes qui font partie de mes amis. C'est de moins être en force et de plus être à l'écoute de ce qui est, de se dire « Ok, c'est pas grave. » Et souvent, on est même plus convaincant. On est parfois plus convaincant quand on arrête d'essayer de convaincre. Mais pour ça, il faut être très détendu. Je ne l'ai pas toujours été.
Il faut arriver à lâcher prise, à déléguer, à faire confiance, quoi. Ça, c'est une vraie problématique du quotidien en entreprise, finalement.
Bien sûr, bien sûr. Mais moi, le lâcher prise, c'était compliqué toute ma vie, hein. Et en même temps, c'est un paradoxe, parce que j'ai toujours attendu des invités qui lâchent prise, qui me fassent confiance et qui partent en terre inconnue sans savoir où ils allaient, sans savoir comment qu'ils allaient rencontrer, etc. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut faire du travail personnel, en vérité. C'est-à-dire qu'on peut être bien dans le collectif que quand on est bien entre soi et soi. Et moi, j'aime beaucoup donner cette image que donne Christophe André, d'ailleurs, dans les conférences. Mais moi, je l'ai vécu quand j'ai pris l'avion la première fois de ma vie. Et je me souviens des instructions. En cas de dépressurisation, les masques oxygène vont tomber. Et ensuite, l'instruction qui suit, c'est mettez-vous le masque d'abord et ensuite les autres. Et je me souviens de ce que j'ai pensé, j'avais 20 ans, et je me disais, mais attends, mais comment ça, moi d'abord. Et c'est quoi, c'est le chaos, c'est moi d'abord, quoi. Et en fait, ils vous disent, bah, vous ne pouvez pas aider les autres à respirer si vous ne respirez plus. Donc en fait, dans l'existence, on ne peut pas aider les autres à aller bien si on ne va pas bien. Et c'est pour ça que j'invite chacun à s'intéresser à ses propres besoins. Et ce n'est pas être individualiste, c'est le contraire. C'est que plus on s'interroge sur nos besoins, plus on s'intéresse plus on cherche à être bien soi-même, et plus on va pouvoir être à l'écoute des autres et pouvoir même s'engager dans la société ou dans l'entreprise, etc. Et c'est dommage qu'il y ait un petit quiproquo qui consiste à penser que le développement personnel, c'est pour être égoïste, alors que c'est le contraire, ça vous ouvre aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui me rend assez triste, en fait, qui est ce quiproquo-là. Et on ne peut pas être bien avec les autres. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est la fille de Pierre Rabhi, qui était le paysan philosophe, qui a créé une sorte de village idéal avec des gens qui rêvaient d'un monde parfait. Et ça s'est passé, ça a été assez conflictuel. Et en fait, ce qu'ils ont découvert après coup, c'est que tout le monde n'avait pas fait de développement personnel, tout le monde n'avait pas travaillé sur soi. Et donc, à partir de là, vous avez beau avoir le même rêve, vous êtes dans la même direction, mais à un moment donné, quand vous vous retrouvez que le rêve est accompli, ben, d'un seul coup, vous êtes les mêmes personnes avec les mêmes blessures, les mêmes peurs, etc. Donc moi, je sais que je l'ai vécu, je le vois autour de moi, et je suis convaincu que si tout le monde faisait de la méditation, mais je veux dire que le monde irait beaucoup mieux, si tout le monde faisait de l'autocompassion et qu'on arrêtait de se maltraiter soi-même, parce que finalement, on trouve que le monde est dur, mais nous, on est plus dur. Nous, on est plus dur avec nous-mêmes, donc c'est un truc horrible. Et je pense que les gens seraient beaucoup plus détendus.
Et alors, est-ce que vos émissions ont le but d'être inspirantes ? Est-ce que vous avez des lectures inspirantes à conseiller pour terminer ?
Moi, il y a des... Alors, sur la méditation, il y a celui de Christophe André, qui est quand même, j'ai l'impression, qui donne l'essentiel. C'est « Méditer jour après jour » de Christophe André. Et il y en a un autre qui est assez drôle, qui s'appelle « Passage », pas plus loin, « Sage », de Marianne Lennart. Et Marianne Lennart, elle a écrit un bouquin, c'est un peu la Bridget Jones de la méditation. C'est-à-dire qu'en fait, elle montre qu'en fait, on peut, au début, on trouve ça incroyable, on pense que la vie va changer, et puis en vérité, c'est plus compliqué que ça. Et donc, en fait, elle dédramatise beaucoup l'échec, et elle donne du courage. Et puis, un bouquin, moi, que je conseille beaucoup en ce moment, il y en a deux, en fait. C'est un qui s'appelle « Humanité, une histoire optimiste » de Rutger Bregman, qui est un historien, chercheur, qui a 35 ans aujourd'hui, qui est aux Pays-Bas, et qui a écrit d'abord deux livres formidables, un qui s'appelle « Utopie », Utopie réaliste. Donc l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. D'accord ? Et c'est pour ça que le monde, en fait, en ce moment, est un peu tristoun, parce qu'on a une petite injonction, on oublie de rêver, en fait. Et Martin Luther King, il dit dans son bouquin, Martin Luther King n'a pas dit « j'ai fait un cauchemar », il dit « j'ai fait un rêve ». Donc c'est pas être naïf que de rêver, c'est l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Et donc utopie réaliste et humanité, une histoire optimiste. Et puis un bouquin de Hans Rolling, c'est un statisticien des pays suédois cette fois, qui n'est plus là, qui n'est plus ce monde, mais qui a écrit. Alors le titre est en anglais, mais le livre est en français. Le titre c'est Factfulness. Et c'est aussi sur la manière dont les chaînes d'info nous racontent le monde, dont les médias nous racontent le monde, la représentation du monde qu'on a. Et en fait, là, ce sont les faits. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre les menaces qui pèsent sur nous et nos peurs. Et donc, du coup, on s'aperçoit en vérité que, bien sûr qu'aujourd'hui, le monde traverse des crises incroyables, mais il a toujours traversé des crises incroyables. Donc j'ai un peu de mal avec cette sensation, le pessimisme ambiant, parce que ça ne donne pas envie de s'engager, en fait. On se sent découragé. Du coup, voilà, ma demande de lecture, celle auquel je pense.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Courrier cadre, l'entretien.